Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre. La laïcité, la camaraderie, le vivre ensemble, notre vie, notre école, notre classe, la liberté, l'égalité, la fraternité, et la fin d'année. On arrivait dans le stade sous les cris et les applaudissements de nos parents, qui nous attendaient fièrement eux aussi, dans les gradins, en mangeant des frites. On arrivait en conquérant et ambassadeur de l'école de la République, pour danser sur la pelouse, au son des musiques militaires, mais festive. Une année, comme j'étais petite, très petite, hein, toute petite, vraiment petite, une maîtresse, alors que j'étais en CE2, avait eu la splendide et humaniste idée de me mettre avec les CP. Pour que je sois de la même hauteur, pour que rien ne dépasse. Je me souviens encore de la honte, de devoir changer de place et de rejoindre mes camarades de CP, en baissant la tête et en me faisant rigoler dessus tout le long du chemin.
Elle est toute petite. Elle est toute petite, elle est toute petite.
Bah, déclassée. Rétrogradée. Recalée. Normalisée. Ça m'a forgé un drôle de caractère, hein. De devoir répondre aux blagues et insultes dans la cour d'école. Ça a développé la légitimité à l'ouvrir. Et si j'ai compris assez vite le pouvoir des mots, je me suis aussi rendu compte très jeune de la violence des corps. De la violence, parfois, qu'ils doivent accepter. Ou pas. Et de leur capacité à devoir donner des coups, parfois. Ou pas. Je m'appelle Corinne. Corinne ? C'est un vrai prénom de fille. On sait, rien qu'à mon prénom, de quel sexe je suis. C'est facile pour deviner. Mais c'est un peu tôt la naissance pour dire c'est quoi ton genre, non? J'aurais adoré m'appeler Camille, Frédéric, Stéphane ou Sacha pour laisser du doute, ou des possibles, des peut-être, des... Je sais pas. Des j'ai pas compris. Des on verra, quoi. J'aurais adoré. Quand j'étais petite, moins petite que quand j'étais petite, hein, je me demandais souvent comment cela se passerait. Comment je deviendrais une femme. Oh, ça faisait un peu peur. Hein. C'était très intriguant aussi. Comme on ne me disait rien sur ça, ou si peu, et de façon si énigmatique, j'attendais finalement que le miracle s'accomplisse. Comme un cadeau que l'on me ferait ou un sort que l'on me jetterait. J'hésitais un peu sur la nature de ce don. Ce qui est sûr, c'est que cela ne m'appartenait pas. Cela semblait extérieur à moi-même. Cela se passerait et puis c'est tout. Cela viendrait et je saurais alors quoi faire. Enfin, j'espère. Une dépossession qui me rendait spectatrice de moi-même. Comme je n'avais pas appris, et qu'on ne m'avait pas transmis, la puissance de moi-même, la capacité à me devenir, eh bien, je suis devenue femme en fonction des autres. De leur regard, de leur accord, ou leur désapprobation à ce que je devenais, à ma façon de marcher, de parler. Je cherchais dans le regard des autres le chemin à suivre pour être une femme. Et les autres, ceux qui savaient, eux, ce qu'était une femme, ou plutôt ceux qui se sentaient légitimes à dire ce que cela devait être, c'était des hommes. Les pères, les frères, les copains, ma télé, le ciné, la pub, la rue, la musique. Des hommes, tous. Je suis devenue femme en fonction de leur regard. De leur fantasme. De leur projection. Je suis devenue, ou j'ai essayé de devenir, un mélange de tout cela. Oh, j'ai fait de mon mieux, hein. Je vous jure, hein. J'ai fait de mon mieux pour y parvenir. De mon mieux, mais avec toutes les contradictions qui me tiraillaient entre ce qu'ils disaient que je devais être et ce que je ressentais au fond de moi. De mon mieux, mais en hurlant parfois, de douleur et d'incompréhension. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu fais pas ce qu'on te demande? Qu'est-ce que ça te coûte? C'est quoi ton problème? Être et paraître. Être ou disparaître. Masquer puis dévoiler. Silence. Je m'unis au silence. Je me suis unie au silence. Et je me laisse faire. Je me laisse boire. Je me laisse dire un jour, peut-être. Je m'en irai. Je m'en irai sans rester. Je m'en irai comme qui s'en va. Est-ce que je suis une femme? C'est quoi une femme? C'est quoi ton problème? C'est quoi mon problème? Ma boussole, ce fut mon corps, pour le meilleur et pour le pire. Ce sera lui qui me dira, lui dont je dirai, lui dont les autres diront, si je suis une femme, quel genre de femme je suis, et c'est ainsi que les femmes peuvent vivre.
Tiens-toi droite, marche correctement, assieds-toi bien, tu vas pas sortir comme ça, hein. Rentre à la maison tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? T'as vu comment elle parle? Non, mais y a des choses qui disent pas pour des femmes. Hein. Et une fille qui boit, c'est moche. Qu'est-ce qu'elle est vulgaire?
Quand j'étais presque plus petite, je croyais que du jour au lendemain, je deviendrais une femme. Et que je mettrais alors des robes et des talons.
Je croyais que je serais alors élégante. Et glamour. Enfin, une femme. Comme celle que je voyais à la télé. Et dont tout le monde semblait s'accorder à dire que ça, ce sont de vraies femmes. Alors, ben moi, j'attendais. J'attendais. Mais alors, je me regardais dans le miroir et je me demandais quand même comment cela allait être possible avec ce corps. Mais bon, ben moi, j'attendais quoi.
Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, si on devait le résumer, ce qui est évidemment très difficile, pourrait peut-être tourner autour de cette idée qui a été souvent reprise depuis, mais que j'aimerais bien pouvoir expliquer. On ne naît pas femme, on le devient.
Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on appelait quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
Bien avant que l'enfant ne soit déjà même conscient, on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin.
J'assume toutes mes responsabilités, monsieur Mitterrand, sans aucune réserve, je l'ai dit en commençant. Je reconnais bien volontiers que pendant ces 2 ans, j'ai fait ce que je voulais faire et que donc j'en assume toutes les responsabilités.
Ça parlait haut, hein? Et sérieux, en tremblant de plus de 50 ans. Et c'est toujours le dernier qui parlait qui avait raison. Chez nous aussi, on faisait ça, hein? Attention, hein, si ça continue, on va droit dans le mur. Moi, je vous aurais prévenu, hein. Mais enfin, pourquoi tu t'énerves? Personne n'a dit que t'avais tort. On te demande juste de parler moins fort. Oui, surtout que je suis pas sûre que t'aies raison d'adopter une position comme ça un peu fermée. Mais enfin, du coup, je me mêle. Qu'est-ce que tu connais, toi? Ah ben non, hein. Vous allez pas vous engueuler, hein. On est à table, hein. Est-ce qu'on peut manger tranquillement, hein? Mais je ne gueule pas. C'est juste de bien comprendre. Moi, j'étais d'accord avec papa. C'est toujours les gentils qui ont raison. Mon papa, il était ouvrier dans la chaussure, dans la godasse, comme on disait. Il était ouvrier et syndicaliste. Il parlait haut, hein, et fort. Il croyait dans la lutte des classes. La lutte des classes, c'est quand les riches, ils font croire aux pauvres que ça n'existe pas, la lutte des classes. Ouais. Ma maman, elle était institutrice et adhérente au Parti Socialiste, mais ça n'a rien à voir. Enfin, je crois. Quand j'étais petite, je croyais que tout le monde était de gauche. Je croyais qu'un jour, les ouvriers y prendraient pouvoir pour créer un monde plus juste. Je croyais que tout le monde attendait ça.
Je croyais que même les méchants de droite, ils comprendraient que ce serait bien mieux si c'était les gentils de gauche qui seraient au pouvoir. Du coup, les méchants de gauche qui seraient au pouvoir, les méchants de droite, ils se rendraient compte que ce serait bien mieux que ce soit les gentils de gauche qui soient au pouvoir. Du coup, quand les gentils de gauche seraient au pouvoir, les méchants de droite, ils s'excuseraient d'avoir fait n'importe quoi. Et ils deviendraient eux aussi des gentils de gauche. Bah, mais au moins bien, quoi. Ah bon? Tu croyais ça, toi? Bah oui. Pas vous? Bah non, ma chérie. Ah. En 1989, après 25 ans passés dans son usine de chaussures, mon père est licencié pour répondre aux besoins du marché. Mon père est licencié. Lui qui était ouvrier, syndicaliste et de gauche, il est licencié. Comment il va faire, mon papa, pour sauver le monde s'il est licencié? Je ne sais pas. Mais ça doit être une erreur, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Je vais leur écrire, tu vas voir. Ils vont te remettre à sa place. Ouais, c'est ça. Vas-y, écris. De toute façon, écrire, ça fait du bien. On va se battre, hein? Tu vas rien lâcher, hein? Non. Je vais rien lâcher. J'ai alors vu nos corps changer. Celui de mon père, au chômage, un peu honteux, se courber. Nos vacances se raréfiaient, mes vêtements neufs se disloquaient et la peur s'installait. Ça va durer longtemps, tu crois? Je sais pas. Il va en retrouver du travail, mon papa, tu crois? Je sais pas. C'est parce qu'il était syndicaliste qu'il a été licencié. Oh. Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je sais pas. T'as peur, toi? Moi? Ouais, j'ai peur. Toi, t'as peur? Je sais pas. On parlait moins haut, hein. Et moins fort. Chaque décision politique a une répercussion sur nos corps. Chaque décision politique les rend plus rugueux, douloureux, meurtris, en colère. Et la colère, c'est pour les pauvres, pour ceux qui se maîtrisent pas. Qu'est-ce qui fait qu'à son âge, mon père il est encore jeune, hein, il a 50 ans et quelques. Qu'est-ce qui fait qu'à son âge, on perd déjà l'usage de son corps? C'est ça que j'ai voulu raconter quand j'ai commencé à écrire ce livre. Raconter l'histoire de la destruction d'un corps par le monde social. Et mettre cette idée-là au centre du livre, que le monde fonctionne par la division entre des corps qui d'un côté sont protégés et pris en charge par les autres, et de l'autre, des corps qui sont soumis à la destruction. Et mon père, il fait partie de ces corps qui sont soumis à la destruction. C'est ça que j'ai voulu raconter quand j'ai commencé à écrire ce livre.
Vous dites que un corps comme celui de votre père, pour lui, la politique est une question de vie ou de mort, alors que pour ce que vous nommez les dominants, c'est une question esthétique. Est-ce que vous pouvez revenir sur sa distinction?
J'avais parlé de ce fait qui était que moi, quand je suis arrivé à Paris, en ayant grandi dans les classes populaires du Nord, dans un milieu où justement mon père était ouvrier d'usine jusqu'à 35 ans, à 35 ans, un poids lui est tombé dessus, lui a broyé le dos, a fait qu'il a été paralysé pendant plusieurs années, et qu'il a été le destin plus ou moins de ses grands-parents, de ses parents avant lui. Et c'est ça le milieu dans lequel j'ai grandi. Et quand je suis arrivé à Paris et que j'étais pour la première fois mis au contact d'autres milieux, d'autres mondes, de gens plus privilégiés, de classes dominantes, de classes plus privilégiées, je me suis rendu compte que la politique avait beaucoup, beaucoup moins d'effets sur le corps dominant que sur le corps dominé. Comme si le fait d'avoir ce que Pierre Bourdieu aurait appelé du capital social, du capital culturel, du capital économique, comme si la détention de toutes ces formes de capital, en fait, vous protégeait des effets de la politique. Et je parle de, donc, qui a tué mon père, du fait qu'une réforme, d'une réforme politique, d'une décision politique dans mon enfance, dans le monde de mon enfance, dans la classe de mon enfance. Une réforme politique, ça voulait dire manger ou ne pas manger. Ça voulait dire vivre ou mourir, justement. Le moment où ils suppriment 5 euros d'APL, donc on enlève 5 euros aux gens les plus précaires, les gens les plus pauvres, les gens qui ont besoin d'assistance pour payer leur loyer, tout le gouvernement dit 5 euros c'est rien. Les gens disent 5 euros c'est pas grave, parce que comme ils appartiennent aux classes dominantes, ils se rendent pas compte que 5 euros, pour un milieu qui est celui dans lequel j'ai grandi, pour les classes populaires, c'est 2 jours de nourriture. Je l'ai dit dans une interview aux Inrocks il y a pas longtemps, pour nous 5 euros c'était 2 jours de pâtes et de sauce tomate chez Aldi, et que dans mon enfance c'était pas du tout rare qu'un jour ma mère nous dise il n'y a plus à manger ce soir, donc on mange pas ce soir si vous voulez. Et voilà, ça c'est comme une anecdote, mais qui illustre bien ça, qui illustre bien le fait que si vous appartenez aux classes populaires, la politique ça veut dire manger ou ne pas manger. Si vous appartenez aux classes dominantes, à la bourgeoisie parisienne, les classes moyennes intellectuelles, Macron ne peut pas vous empêcher de manger, un gouvernement ne peut pas vous empêcher de manger. Et donc la politique ne veut pas dire la même chose selon le milieu dans lequel vous vivez, selon le milieu qui vous a été imposé, selon le milieu dans lequel vous avez évolué. Et voilà, c'est-à-dire le mot politique ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde.
Je me promettais alors de venger ma classe, de ne pas la trahir, de la porter en étendard, de la faire respecter aussi. Et de devenir une combattante politique. Et de venger aussi mon genre, en utilisant mon corps comme une arme politique. Oui, enfin... c'est ce que j'aurais aimé faire. C'est ce que je croyais que j'étais en train de faire. Pour me rendre compte que mon corps... c'était devenu une armure, une carapace. Une arme que j'ai retournée contre moi. C'est bien, Corée. Tu sais prendre des coups. Maintenant, faut apprendre à en donner. Ouais, je sais. Parce que tu sais, faut pas souffrir. Ouais, je sais. Mais souffrir de quoi? Des autres, quand il y a des autres. Je savais pas que je pouvais être qui je voulais, seulement si j'étais capable d'en payer le prix.
Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas et avec qui on ne fait pas d'enfant. Je parle de ma place de femme, toujours trop tout ce qu'elle est, trop agressive, trop grosse, trop bruyante, trop brutale, trop hirsute, toujours trop virile, me dit-on. Parce que l'idéal de la femme blanche mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune mais sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs de l'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je ne l'ai jamais croisée. Je crois bien qu'elle n'existe pas.
1975. Naissance et mort. Les médecins annoncent un cancer. Stupeur. Tumeur. Attente d'un spécialiste. Détachement de la chose, hein. Nouvelle naissance. Célébration de l'enfant miracle. Il reste un handicap. Il empêche de marcher et de courir comme les autres. Il empêche surtout de porter des... talons. Oui, c'est stupide, hein. Mais humiliant. Humiliant pour un corps qu'on attend et qui s'attend à être conforme.
Salut Lucky Luke. Sympa ta démarche de cow-boy. Il y a où ton cheval? Vas-y, hein, cours, c'est bien. Tu cours comme un âne, mais tu cours. C'est rigolo, ta démarche, hein. C'est pas très féminin, mais toi, tu t'en fous. T'es une rigolote. Soyez heureuse d'être en vie, madame. La médecine ne vous donnait pas vivante.
La médecine. Et son corps médical. La médecine s'occupe de toi. Administrativement. Et de tes organes, séparément. Mais pas de ta douleur, pas de tes séquelles, pas de ta différence. La médecine s'occupe de toi. Bon, j'ai donc un corps biologique de sexe féminin. À tel emploi. En vrai, j'avais fini par m'en foutre de cette histoire de talons. J'avais trouvé une solution pour qu'on ne regarde pas mes jambes et mes pieds. J'avais décidé de tout concentrer sur le haut du corps, hein. D'exagérer les mouvements du bras, d'augmenter le volume sonore et de miser sur les mots, l'esprit, l'humour, pour me défendre et pour attaquer aussi. Ah ben oui, mais alors ça, ce sont des qualités dites d'homme.
Corinne, c'est un super pote. Ouais, avec elle, on peut tout dire, elle se vexe pas. On n'a pas besoin de la draguer.
Bon, j'ai donc un corps biologique féminin, à qui on ne reconnaît pas de féminité, et un esprit censé être celui d'un homme. Je me souviens m'être faite larguer parce que je ne pouvais pas porter de talons. Je ne lui en avais même pas voulu à ce garçon. Parce que moi aussi, j'avais intégré l'idée qu'une femme sans talons... Non, c'est moche. Quand j'étais ado, et que je me regardais dans le miroir, moi, je voyais une jeune fille un peu pulpeuse, avec un ventre tout mignon. Les autres, enfin, ceux qui se sentaient légitimes à dire ce qu'était une femme, eux, ils voyaient une grosse. Non, mais moi, je ne pensais rien à mon corps. En tout cas, je ne pensais rien de négatif de mon corps. C'est mon premier petit copain qui m'a rappelé qu'il ne m'appartenait pas de définir moi-même ce qu'était mon corps.
Hé, hey, Anthony, il est où ton cartable, faut y aller? Hein? Elle est où, ta vache? Ça a sonné, hein, on y va, nous. Elle est là.
J'ai serré les dents et souri. Je me souviens m'être regardée et avoir pensé qu'il avait raison. Oui, mais alors si je ne pouvais pas me fier à moi pour me construire, à qui pourrais-je m'identifier? Comment apprendre à bien grandir avec ce corps? Maîtriser. Maigrir. Maîtriser. Maigrir. Maîtriser. Maigrir. C'est euphorisant. On devient invisible, plus légère, on sécrète de l'endorphine. Ça nous tient éveillés. On maîtrise plus, on maigrit plus. Plus de seins. Plus de fesses. Je peux toucher les os de mes hanches, me promener sur le creux de mon ventre. J'aime ça. Ça me donne du plaisir. De toute façon, je ne veux pas être une femme. De toute façon, je ne sais pas être une femme. Ni une mère, d'ailleurs. Je préfère rester une enfant. Ça, je connais. Et j'y suis en sécurité. Le monde des adultes me fait peur. Et encore plus celui des hommes. Allez, ne dis pas que t'en as pas envie. Je sais pas. Non, pas comme ça. Pas là, pas maintenant, allez. Ne dis pas que ça te fait pas plaisir. Oui, mais c'est pas la question. J'ai pas envie, c'est tout. Bah si, c'est quand même un peu la question, non? T'es contente de te retrouver là toute seule avec moi. Oui, mais quoi? Allez, il se passe rien, rien de mal. Non, mais je sais pas. Laisse-toi aller. Tu verras, ça ira. Non, mais arrête, s'il te plaît. Chut.
La question que pose l'autodéfense c'est d'autres types de, d'actions, d'autres types de positionnement politique et individuel qui suppose qu'on prenne par exemple l'échelle d'un corps, enfin d'essayer de comprendre comment dans une situation donnée justement le corps est tétanisé par la peur et comment essayer de politiser ou de penser cette peur pour qu'elle se transforme en rage par exemple et que quelle que soit la corpulence de l'agresseur, eh bien l'agression soit arrêtée par un passage à la violence physique pour répondre à la violence physique qui est faite. Mais c'est aussi d'autres modalités, par exemple, de politisation de la question. On voit en Inde, avec le gang des saris roses, le recours, par exemple, à la police ou à la justice étant inopératoire, puisque la justice ne réagit pas, la police refuse de prendre les plaintes. Et bien, les femmes se sont organisées en amont, et à la moindre dénonciation d'une violence d'un mari sur sa femme, sur ses filles, sur ses sœurs, eh bien, les femmes se sont mobilisées avec des bâtons, aller au domicile de cet individu et aller le molester pour lui faire comprendre physiquement que la patience est à bout, c'est-à-dire que ce n'est pas tolérable. Alors que là, il y a une forme, c'est dans ce qui est mis en place, bien sûr que peut-être ça aura un effet pédagogique, didactique et préventif, mais c'est toujours une forme de volonté pédagogique de dire aux agresseurs quand même c'est pas bien ce que vous faites, il faut vraiment arrêter.
Je décrypte dans le regard de mes partenaires ce qui leur procure du plaisir, comme une danse, une chorégraphie répétée, répétée. Je ne fais plus la différence entre désir et plaisir. Je crois d'ailleurs que je n'ai ni l'un ni l'autre. Comment les hommes peuvent-ils avoir envie de moi? J'aime exhiber mon corps nu, décharné, voir dans leur regard si cela est normal. Personne ne dit rien. Je dois continuer. Jusqu'à ce que cela se voie. Continuer de refuser. Tout refuser en bloc, faire bloc, débloquer,
maîtriser, maigrir, maîtriser, maigrir, maîtriser, maigrir, maîtriser, maigrir.
Aménorée je suis, je n'ai plus de règles, je ne peux plus avoir d'enfant. Ça tombe bien, j'en suis moi-même une. Plus de pilules. Plus de tampons, plus de passe-fond. Une petite victoire. Et une bien maigre victoire.
Il suffit juste de manger. Si tu voulais bien manger un peu, allez, force-toi un peu.
Oui, mais c'est justement ça la maladie. Ne plus vouloir. Puis ne plus pouvoir. Ne plus avoir de vouloir. Décider qu'on ne veut plus. Et se retrouver pris dans cette folie mentale, une petite mort. Ne plus rien avaler ou vomir. Un grand verre d'eau chaude et deux doigts dans la bouche et hop!
Maîtriser.
Maîtriser.
Maigrir.
Maigrir.
Maîtriser.
Maîtriser.
Maigrir.
Maigrir.
Maîtriser.
Maîtriser.
Maigrir.
Maigrir.
Maîtriser.
Maîtriser.
Maigrir.
Maigrir. De toute façon, manger c'est sale. Manger, c'est un truc d'adulte. C'est un truc sexuel. Moi, ce que je préfère, faire manger les autres. Les laisser me manger. Leur offrir ma chair morte. Jusqu'à les dégoûter de moi. Pour mieux me réjouir de n'être pas eux. Et rester intact. Impropre à la consommation. Je grandirai plus tard. Quand j'aurai compris ce qu'on me demande. La scène du travail. Mémorable prestation. Pas de récompense, pas de prix, même pas de nomination. Une éviction, manu militari. Injonction paradoxale. Invisibilisation de mon travail. Délégitimation.
travail. Non, reconnaissance à mon travail. Manipulation du zèle. Isolement. Mise à l'écart. Chantage à l'emploi. Peur. Peur.
Burnout.
Dix ans. Il leur aura fallu 10 ans pour mettre le feu à mon corps, pour l'évincer, l'éjecter, l'anéantir, le rendre inutile. 10 ans de lutte. Le mythe du travail. 10 ans d'acceptation des règles comme une fatalité. Je me croyais pourtant plus forte, mieux préparée à rentrer dans la règle pour en sortir vivante. 10 ans, et plus encore, pour comprendre que le management et le néolibéralisme n'épargnent personne. S'absorber soi-même. Se manger de l'intérieur, et au moment où s'y attend le moins, exploser. S'expulser de soi-même, devenir une étrangère dans son propre corps. Ne plus être que souffrance, brûlure, torture, défigurée par la folie, l'incompréhension, le doute, ne plus supporter le monde qui brise autour de nous, la lumière du jour, les bruits de la nuit. Les mots des autres, les autres. Être flou à soi-même, se perdre dans son propre corps, perdre les contours de son corps, vouloir l'arracher. Puis lentement, doucement, entrer dans l'ombre, jusqu'à devenir la nuit. Corps dévalisé, empêtré, enseveli. Enseveli sous le poids des autres. Des autres qui attendent, qui t'attendent, qui te voudraient toujours, mieux, moins, jamais. Inatteignable. Sous les cris qu'il reste de ta vie, les peines et les pas que tu peines à franchir, les pleurs et les deuils que tu peines à nous dire, les sons. Que tu sèmes dans la nuit les mots, que tu traînes dans tes plis. Les naufrages incessants, les sabordages entêtants. La mère, mère, emmerdante. Le frère. Et le père. Si tôt mort, si toujours absent. Corps malade. Exposé au corps médical. Scruté, observé, analysé, éparpillé, déchiqueté, disloqué. Ne plus être que des morceaux de soi. Tenter de les recoller en perdant route. Ne plus savoir où les poser. Décider finalement de tout jeter. Et attendre. Attendre une repousse miraculeuse. Se recréer un corps. Corps dépolitisé. Soumis à l'évaluation psychologique de nos émotions genrées. Un corps encore en cours de création et déjà nomenclaturé. À quoi veut-elle que je ressemble cette dame ? Je sens qu'elle attend quelque chose de moi. Je le sens. Je le sais. Mais j'ai peur de ce matin-là. Est-ce à moi de lui dire ce que j'attends d'elle? Ou bien, dois-je lui faire deviner? Ou bien, dois-je me taire? Surtout ne pas lui dire que je sais très bien ce qui se joue dans ce cabinet médical de la sécurité sociale ce matin-là. Je le sais très bien. Trop bien. Et pourtant, si mal, Surtout, lui laisser la main. Respecter les positions des corps sociaux dans l'espace politique, chacune sa place. Surtout ne pas lutter pour une place qu'elle ne me donnera de toute façon pas. Car il lui sera inconcevable que je ne sois pas là où elle me mettra, dans la case où elle m'assignera. Que j'en serai contente de cette jolie case numérotée dorée qu'elle décidera de m'octroyer. Droit de vie et de mort sur un corps. 10 minutes pour jouer et rejouer sa vie, donner à voir, entendre, comprendre, tout en laissant l'autre décider de ce que sa vie vaut, de comment la nommer. Case pour mon corps. Case de survie. Une case en plus. Pour un corps en moins. Bon, simplement répondre à ses questions. Voilà. Naïvement, docilement. Ne pas penser à sa place. Voilà. Et rester à ma place. Ne pas lui dire tout ce que je sais de mon histoire, toute l'analyse politique que j'en ai faite durant ces années de souffrance. Rester à ma place, voilà. Ma place de malade. Faut être patiente. Parce que moi, j'attends quelque chose d'elle. J'attends qu'elle me reconnaisse. Rien que ça. J'attends qu'elle déleste mon corps d'une partie de sa douleur et de son histoire. Qu'elle en estime sa valeur et qu'elle me rende ce qu'on m'a pris. Ça fait beaucoup, hein, pour un petit matin. Et un bureau si sombre. J'ai mis mon ciré jaune et mon jogging gris ce matin-là. Celui qui m'avait vu errer pendant des mois de descente aux enfers, errer du canapé au lit et du lit au canapé, la tête embrumée et la peur de mourir chaque matin nouée au fond de la gorge. La tenue du malade. Je me sens si mal avec. Elle me rappelle à moi-même tant de souffrances, de douleurs, que je voudrais faire disparaître. Mais dont je sais qu'il faudra que je les montre ce matin-là. Parce que mon histoire ne suffira pas. Mes mots ne suffiront pas. Ils devront s'accompagner de stigmates à lui présenter comme une offrande. Visibiliser l'invisible. Handicap invisible. Quel étrange terme. Pour désigner quelque chose qui, moi, me fait souffrir en permanence. Ce qui est invisible, ce sont plutôt mes mots. Ma parole qu'on me demande de taire pour faire disparaître aux yeux des autres mon corps. Je dois ressembler à ce qu'elle pense qu'une personne handicapée doit ressembler. Voilà, c'est ça. Ah mais alors, qui sait à quoi elle pense qu'une personne handicapée doit ressembler? Et moi? Je ressemble à quoi ce matin-là? Je ressemble à rien. J'ai froid. J'ai peur. Je ne sais plus si je joue, rejoue, surjoue. J'endosse la tenue pour la circonstance. Surtout, lui laisser la main. De toute façon, l'avais-je vraiment eu?
Vu les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et après évaluation de votre demande, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées décide d'accorder la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à Madame L. du fait que vos possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi soient réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Il vous a été reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et strictement inférieur à 80%, déterminé en l'application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Être handicapé, c'est aussi une construction sociale, tout comme ce qu'on y oppose, à savoir être valide. Un individu est désigné handicapé parce qu'il est exclu des critères de la validité, parce que son corps, au sens large, ne correspond pas aux critères délimités par une société donnée dans un contexte précis. La prépondérance du médical dans le handicap produit une survalorisation de la parole des médecins, qui seraient dès lors les seuls capables de dire qui est handicapé et qui ne l'est pas. Reléguant le discours des premières concernées au mieux au second plan, au pire dans les limbes. Corps en apnée. Traverser l'âge adulte à grands coups de rame. Se noyer dans l'inconnu. On joue à quoi quand on est grande? Retenir sa respiration. Jusqu'à en perdre le sens des choses. De peur de comprendre qui on est, de peur d'accepter la violence de ce monde, de peur de leur ressembler et de se détester, de ne rien faire contre cela.
J'ai l'impression de vivre avec 10 000 keufs à l'intérieur de ma tête. Les vrais keufs, les keufs des autres, les keufs des adversaires, les keufs de mes amis. Je suis devenue un camp pénitentiaire à moi toute seule, avec des frontières de partout, entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui me plaît et ce qui me déplaît, entre ce qui me sert et ce qui me dessert, entre ce qui est bénéfique et ce qui est morbide, ce qui est permis et ce qui est interdit. Toutes les propagandes me traversent et parlent à travers moi. Je ne suis imperméable à rien et j'en ai marre de surveiller ce que je dis sans même avoir le temps de m'en rendre compte. Je n'ai pas besoin que la police menace. Je menace toute seule. Je n'ai pas besoin d'un couvre-feu pour m'enfermer en moi. Je n'ai pas besoin de l'armée sous mes fenêtres pour surveiller ce que je pense, parce que j'ai intériorisé tellement de merde qui ne servent à rien. Je rentre sous des barbelés parfaitement inutiles, mais que j'ai avalés, et j'en ai marre de prétendre que j'ai la force de les repérer et de les pulvériser, alors qu'ils me lacèrent à chaque pas. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. Chaque fois que tu as le courage de faire ce qu'il te convient de faire, ta liberté me contamine. Chaque fois que j'ai le courage de dire ce que j'ai à dire, ma liberté te contamine. Nous avons avalé ces histoires de frontières, cette fable du chacun pour soi, chacun chez soi, cette fable qui veut que les choses telles qu'on les connaît soient la seule réalité possible et qu'elles soient immuables. La fable selon laquelle la race humaine n'aurait qu'un seul destin collectif possible, l'exploitation impitoyable des uns par une élite, le pouvoir par la force et le malheur pour tous.
Je m'appelle Corinne. J'ai 48 ans. Je suis une femme, blanche, occidentale, cisgenre, handicapée, hétéra, athée, de classe populaire. Diplômée d'une maîtrise de philosophie, travaillant à mon compte, mère célibataire, locataire d'un logement social en milieu rural. Et quand je dis ça, je dis en creux toutes celles qui ne sont pas là, toutes celles reléguées, qui n'ont pas la parole. Et je mesure le privilège de l'apprendre, de vous faire entendre les identités tissées, nouées, imbriquées. En tant que diplômée du supérieur, je me sens légitime à donner mon avis sur à peu près tout et n'importe quoi, sans me demander si cela a un intérêt pour le collectif ou pour mon interlocuteur. En tant que prolétaire et locataire d'un bailleur social, je ne supporte plus de subir les injonctions condescendantes et la justification permanente de ma situation auprès des institutions auxquelles je m'adresse pour réclamer mes droits. En tant que personne handicapée, je vomis la posture dans laquelle je dois me tenir pour ressembler à l'image de ce que cette société se fait d'une personne handicapée, quelqu'un de sage, qui remercie gentiment pour la charité avec laquelle on la traite, tout en subissant les injonctions à être forte, autonome et capable de s'en sortir toute seule. En tant que blanche, j'ai de nombreux privilèges, tels que les énonce l'universitaire féministe américaine Peggy McIntosh. On ne me demande en effet jamais de plaider la cause de l'ensemble du groupe racial auquel j'appartiens. Je peux être certaine que l'on donnera à ma fille des matières qui témoignent de l'existence de la race à laquelle j'appartiens. Lorsque j'allume la télé ou que j'ouvre un journal, j'y vois représenter un grand nombre de gens de ma race. En tant que femme cisgenre, je prends conscience donc des privilèges qui me sont donnés à avoir et de la domination que je pourrais exercer sur les femmes racisées. En tant que femme cisgenre, c'est-à-dire en tant que personne de sexe féminin me reconnaissant dans le genre féminin, mais est-ce si clair que ça?
It's one thing to say that gender is performed, and that's a little different from saying gender is performative. When we say gender is performed, we usually mean that we've taken on a role, we're acting in some way.
Personne n'est un genre déterminé.
Je
sais que c'est controversé, mais c'est mon affirmation. Nous faisons comme si être un homme ou une femme est une réalité interne, alors qu'en fait c'est un phénomène qui est produit et reproduit. C'est pour ça qu'on dit que le genre est performatif. Parce que nous agissons, nous nous comportons, nous parlons de telle façon que cela renforce l'impression d'être un homme ou une femme. Il y a des puissances institutionnelles, comme le harcèlement, qui veulent nous maintenir à notre place genrée. Je pense qu'il est temps de se poser la question de savoir comment ces normes sont établies et policées, et surtout quel est le meilleur moyen de les subvertir. Je pense que le genre est une construction sociale, et que c'est aussi un domaine d'agentivité, de liberté, de créativité. Et qu'il est important de résister à la violence imposée par les idées normées du genre. Un matin, tu te réveilles dans un autre corps. Tu as chaud, froid, la nausée, tu es exténué. Ton corps est lourd, tes muscles endoloris, ta peau sèche. Tes pensées confuses et tristes, tu as juste envie de dormir et pleurer. Dormir et pleurer. Puis, l'odeur de ton corps n'est plus la tienne. Tu ne sens plus comme avant. Tu ne te ressens plus. Tu ne reconnais plus le goût de ta peau. L'odeur de ton intimité, c'est étrangère. Tu n'aimes pas ça, hein. Tu te laves, tu changes de sous-vêtements plusieurs fois. Ce n'est plus ton corps, hein. C'est celui d'une autre. Celui d'une femme vieille, celui de ta mère. Non. Non, c'est détestable. Tu n'aimes pas ça. Tu rechanges de sous-vêtements. Ta peau est devenue moins douce, plus rugueuse, plus ridée. Tes seins sont tombés si vite. Ils sont surtout devenus douloureux, granuleux, énormes. Énormes. Non, mais tu te demandes même si tu n'es pas enceinte. Ton ventre gonfle, dégonfle. Souffle, s'ébruite, se disloque. Tu as 45 ans. Et c'est bientôt la ménopause. Tu n'aimes pas ça. Tu résistes au début. Tu ne veux pas, ça semble irréel. Et puis finalement, c'est comme un grand soulagement. C'est comme une fierté. C'est comme pour tes premières règles. T'es arrivé là. T'es arrivé jusque là. T'es arrivée jusque-là vivante, dans ce corps-là, je veux dire. Ta tête, ton corps, ta vie n'ont pas le même âge. C'est comme si tu étais plusieurs personnes dans le même corps et que la ménopause les convoquait toutes. C'est doux, dur, âpre, joyeux, c'est plein de... C'est trop de... Oh, c'est pas facile à décrire, hein. C'est compliqué à nommer. C'est des notions qui circulent et qui t'emportent si vite. La première bouffée de chaleur me fait sourire. Je regarde autour de moi, est-ce qu'on m'a vu? Est-ce que ça se voit sur moi? Tout d'un coup, je me demande si je ressemble à ce qu'on pense qu'une personne ménopausée doit ressembler. Je sais que c'est complètement ridicule, mais c'est ça que je me demande. Tout d'un coup, je me préoccupe de mon corps, comme si j'avais 15 ans. D'ailleurs, j'ai carrément l'impression d'avoir 15 ans. Je suis finalement assez fière d'être arrivée jusque-là. Hein. Arrivée à un moment dont on ne parle jamais, comme à accéder à un Graal. Et puis bon, aussitôt, réinvisibilisée.
Les chasses aux sorcières ont inscrit profondément dans les consciences une image très négative de la vieille femme. Jugée à la fois répugnante par leur aspect, mais aussi particulièrement dangereuse par leur expérience, elles ont été les victimes favorites des chasses. La sorcière est le seul archétype féminin qui détient un pouvoir par elle-même. Elle ne se laisse pas définir par quelqu'un d'autre. Épouse, sœur, mère, vierge, putain... Ces archétypes sont fondés sur les relations avec les autres. La sorcière, elle, est une femme qui tient debout toute seule.
J'avais pas vu que je devais avoir 45 ans. J'ai rien vu venir. J'ai rien préparé, rien anticipé. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. J'ai claqué les doigts et hop, 25 ans de vie avaient passé. J'avais attendu impatiemment de devenir une femme. Et voilà déjà que j'en suis presque plus une. Non, c'est drôle. Si, c'est drôle, hein. En tout cas, c'est officiel. Je suis vieille. Je ne sers plus à rien. Fin du jeu. Game over. J'hésite entre me réjouir et pleurer. Je m'inspecte. Tenue correcte. Posture correcte. C'est si bizarre, si paradoxal, prise entre deux possibles. D'un côté, me faire discrète, accepter gentiment de disparaître. Et de l'autre, jouir de cette nouvelle liberté que m'offre l'invisibilité. Oui, puisque plus personne ne regarde maintenant, je peux faire ce que je veux. Non, mais en fait, maintenant, je suis dans le corps d'un homme, c'est ça? Non, mais c'est finalement presque jouissif ce qui m'arrive. C'est quand tout s'arrête, Bah, que tout commence. Ça donne vraiment envie de rire, cette histoire. Un peu de pleurer aussi, mais bon, ça, c'est les hormones, enfin. J'ai rien fait dans l'ordre. Mais non, je sais qu'il n'y a pas d'ordre. Je sais qu'il n'y a rien à atteindre. Pas de but. Il n'y a rien à attendre non plus, d'ailleurs. J'ai commencé par mourir. Puis mon corps a été celui d'une femme vieille. Voilà que la ménopause m'ouvre les portes de l'adolescence, de l'insouciance, de la liberté. Et le retour des questions existentielles, pff, ça ne s'arrête jamais, quoi. C'est ça qui est bien. C'est que c'est une joie, un bonheur et une lutte permanente. Il faut alors remettre le monde cul par-dessus tête, sans dessus-dessous. Pas une mince affaire, hein. Mais il peut y avoir une immense volupté. La volupté de l'audace, de l'insolence, de l'affirmation vitale, du défi à l'autorité. À laisser notre pensée et notre imagination suivre les chuchotements sur lesquels nous entraînent les sorcières. À tenter de préciser l'image d'un monde qui assurerait le bien-être de l'humanité, où la libre exultation de nos corps et de nos esprits ne serait plus assimilée à un sabbat infernal. Corps politique. Réapproprié. Réaffirmé, performé, offert au champ des possibles. Quelle chance de n'être pas devenu ce que pensait être.
Même audio, une mémoire sonore.